France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne sont en Isère cette semaine et aujourd'hui je vous emmène sur un site de fouilles archéologiques. L'archéologie, on l'oublie souvent, ce n'est pas seulement de chercher des vestiges, c'est aussi de s'intéresser aux gestes, aux croyances, aux pratiques d'une époque donnée. Eh bien, à Saint-Romain de Jalliona, en Isère, on se penche sur l'apiculture de l'Antiquité romaine. Des ruchers antiques ont même été installés. C'est une initiative unique en France. Avant cela, je donne la parole à une femme qui conçoit des vêtements très particuliers. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Elle ne trouvait pas de vêtements pour son fils, alors elle les a faits elle-même. Et désormais, elle les vend pour les autres enfants qui ont du mal avec les coutures, les boutons ou les étiquettes. Des enfants qui souffrent d'hypersensibilité ou d'autisme. Bonjour Eva Mousset.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes à Bizonne, entre Grenoble et Bourgoin-Jallieu. Et vous avez donc créé une ligne de vêtements, baptisée Nel et Tao. La couture n'était pas votre métier pourtant, à la base.
Non, pas vraiment. Enfin, moi, je suis couturière autodidacte, du coup, je tiens ça de mère en fille, de grand-mère, et puis j'ai toujours cousu, en fait. Et j'ai pas mal de métiers à mon actif, notamment l'éducation spécialisée, l'art-thérapie et l'éducation Montessori.
Qu'est-ce qui posait problème à votre fils, Tao, avec les habits qui sont disponibles dans le commerce ?
Pas mal de choses. Déjà, les tissus. Voilà, les tissus rêches, les jeans, même des matières synthétiques, ça n'allait pas. Les coutures contre la peau, les formes, les étiquettes, les boutons, les zips. Quoi d'autre ? Les poches aussi, voilà. Du coup, c'était quand même très, très compliqué.
Quand on dit que c'était compliqué, c'est pas un caprice. Hein. Il souffre d'hypersensibilité et c'était insupportable pour lui.
Oui, c'est pas un caprice. Et quand on dit compliqué, en fait, c'est le mot est faible. C'est un refus et manifestation violente assez forte contre les vêtements, découpage de vêtements. Voilà, je pars tout nu en courant parce que je veux pas m'habiller. L'habillage qui dure trois quarts d'heure, une heure le matin. Enfin, vous voyez un peu l'état de stress dans lequel ça peut mettre le matin. C'était assez difficile, quoi. Ouais.
Alors, quelles sont les spécificités des vêtements que vous proposez avec cette marque Nel et Tao?
Bah déjà, je suis partie du constat des difficultés de mon fils. J'ai cherché des choses, et ben je trouvais rien, voilà, rien où tout était rassemblé en fait au niveau du confort que je voulais pour les vêtements. Et du coup, j'ai décidé de les faire. Donc, pas de couture contre la peau, ça c'est la base. Pas d'étiquette, bien sûr. Pas de poche à l'intérieur, mais à l'extérieur, plaqué. Des tissus doux en coton avec de l'élastane pour garder la souplesse et puis pour que l'enfant, l'ado ou l'adulte puisse bouger et continuer à être bien dans ses vêtements tout au long de la journée. Et à partir de ça, j'ai imaginé aussi dans les poches des languettes sensorielles sur lesquelles l'enfant peut accrocher des petits fidgets pour pouvoir manipuler dans la poche, se rassurer donc dans les poches des pantalons et dans les grandes poches des sweats aussi.
Donc c'est un peu comme un doudou.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est comme un doudou, vous savez, on touche le bouchon d'un stylo, on manipule un interrupteur, quelque chose qu'on gratouille, donc avec différentes matières. Mais voilà, du coup, c'est fait discrètement, c'est mis dans la poche et il y a quelque chose de rassurant où l'enfant choisit le matin ce qu'il veut mettre dans sa poche. Du coup, pas de risque de le perdre puisqu'il y a un petit mousqueton au bout de la languette sensorielle pour pouvoir l'accrocher.
Ce sont des vêtements qui rassurent, donc on peut dire les choses comme ça.
Oui, tout à fait. Oui, qui rassure l'enfant, rassurer les parents parce que pas de prise de tête le soir ou le matin. Mon Dieu, comment je vais faire pour qu'il s'habille, il ou elle s'habille. Et aussi rassurant dans les coupes des vêtements. Moi, mes vêtements sont d'un style classique et intemporel. C'est-à-dire que l'enfant, de saison en saison, même en grandissant, il va retrouver les mêmes modèles des vêtements. Le pantalon dans lequel il est bien, le sweat dans lequel il est bien, et ainsi de suite. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même qui rassure à ce niveau-là, en fait.
Ouais. Alors, je parlais d'autisme et d'hypersensibilité. Est-ce qu'il y a d'autres profils qui sont concernés par ces vêtements ?
Alors, tous les enfants, les ados, adultes porteurs de troubles neurosensoriels, neurodéveloppementaux, hein, donc que ça soit l'autisme ou l'hyperactivité. Alors, l'hypersensibilité tactile fait partie souvent d'une TND, d'un trouble voilà neurodéveloppemental. Et puis parfois, on n'a pas vraiment conscience qu'on a une hypersensibilité tactile. Mais voilà, ces vêtements font du bien parce que du coup, ils sont réconfortants et faciles.
Vous avez changé la vie de pas mal de parents, j'imagine.
Oui, j'ai des retours positifs, effectivement, oui, dans toute la France, du coup. J'ai des clients très réguliers depuis 3 ans, donc moi, ça me fait très plaisir, en fait, voilà, parce que je sais que pour eux, ça change du tout au tout, comme pour moi, en fait. Quand l'habillage passe de 3/4 d'heure, 1 heure à 1 minute le matin et puis en autonomie, bon, bah, on peut enfin boire son café tranquillement le matin sans courir partout pour
l'habiller.
L'enfant, quoi. Ouais.
Vous proposez des vêtements qui sont personnalisés avec des broderies. Pourquoi est-ce que c'est important ?
Mettre une broderie sur la poche, donc qui n'est pas en contact direct avec la peau de l'enfant, ça favorise et ça encourage à l'habillage. L'enfant, il va aimer avoir sa licorne ou son Lego. Voilà, moi, j'offre un panel d'images, voilà. Mais vraiment, la plupart du temps, en fait, les parents me fournissent l'image et moi, je la transforme en broderie. C'est vraiment super, quoi.
Et votre fils, Tao, ça lui fait quel effet, la création de cette petite entreprise ?
Ah, il est très fier. Oui, dès le départ, il a été super content. Voilà, il me fallait son aval parce que c'était mon premier mannequin. Donc du coup, pour savoir si ça lui plairait, s'il acceptait de faire des essais, il a tout de suite adhéré.
Merci beaucoup, Eva Mousset. Je rappelle le nom de votre petite entreprise, Nel et Tao, et on a mis bien sûr un lien vers votre site à la page de l'émission. Je vous souhaite le meilleur.
Merci beaucoup. Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Saint-Romain-de-Jalliona, au nord de l'Isère, pas très loin de Lyon, pour nous demander si les Romains aimaient le miel. Il y a en effet un chantier de fouilles archéologiques à Saint-Romain-de-Jalliona, une vaste villa romaine, et une association a pour projet d'y faire du miel comme à l'époque, pour faire découvrir au grand public les savoir-faire antiques et au passage pour préserver la biodiversité. Bonjour Elvire Royer.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets, vous êtes archéologue, Elvire, vous fouillez ce site depuis 40 ans, autant dire que vous le connaissez très bien, et vous êtes présidente de l'association Archéo-SRJ, SRJ pour Saint-Romain-de-Jalliona. Pouvez-vous nous décrire les lieux d'abord, s'il vous plaît ?
Alors, les lieux, c'est un vaste espace humide, en fait, à 2 kilomètres au sud du Rhône, sur lequel donc la population, une population très ancienne s'est installée dès l'époque néolithique, et on a eu une succession d'habitats depuis une ferme gauloise en passant par 2 villas romaines, puis un château fort, enfin, etc. Voilà.
Et donc vous avez ce projet singulier, d'ailleurs il est unique en France, de produire du miel à la manière de l'Antiquité romaine. Comment procédez-vous pour adopter les gestes de l'époque ?
Alors justement, ça va être tout un travail, hein, puisque nous sommes en train de mettre en place en fait un projet de rucher antique à l'aide d'un apiculteur professionnel. On va installer donc 2 ruches de type antique, une ruche en vannerie et une ruche en tronc. Et puis à côté de ça, on installera une ruche plus classique, hein, moderne, pour récolter dans un premier temps le miel, et puis aussi expliquer de façon plus pédagogique l'histoire de l'abeille à l'époque romaine.
L'apiculture antique a-t-elle été documentée ? Quelles sont vos sources ?
Oui. C'est très documenté par des agronomes latins, en fait, qui ont décrit cette pratique, parce que le miel était un produit très, très intéressant et important à l'époque romaine. Donc, ces agronomes nous ont décrit les ruches, les façons de faire, etc. Mais il y a plein de manques, évidemment, dans leur description. Et surtout, c'est empreint de poésie, de lyrisme, de mythologie. Donc, il faut tout décrypter ça. Pour cela, on a besoin d'un d'un professionnel qui, lui, peut décrypter tous ces gestes.
Donc, vous travaillez avec un apiculteur d'aujourd'hui ?
Oui. C'est essentiel pour ce projet parce que nous ne sommes pas les spécialistes de l'apiculture. On peut apporter des témoignages antiques. On peut aussi apporter des résultats qui ont été trouvés sur des chantiers de fouilles, hein, des objets ou des outils qui est d'apiculture. Alors, c'est relativement rare parce que sur les sites archéologiques, c'est très, très compliqué de trouver trace justement d'apiculture. On sait qu'elle existait, mais c'est difficile à trouver.
Alors, comment procédait-on à l'époque ? Quelles sont les différences entre l'apiculture de l'Antiquité romaine et celle d'aujourd'hui ?
Alors, c'est dans des pratiques qui vont être effectivement complètement différentes, puisque la ruche que nous connaissons actuellement a des rayons que l'apiculteur retire, et donc on apporte peu de dégâts sur une ruche actuelle quand on récolte le miel. Ça n'était pas du tout la même chose à l'époque antique, où il y avait des procédés d'enfumage, hein, il fallait faire sortir les abeilles, puis ensuite on enlevait très très grossièrement et de façon un petit peu brusque l'ensemble cire-miel, et donc il y avait beaucoup de dégâts sur les essaims. On peut évidemment pas se le permettre aujourd'hui, et c'est pas notre volonté pour faire ça. Donc c'est pour ça que nos deux ruches, dans un premier temps, vont être uniquement consacrées à la pollinisation et non pas à la récolte de miel.
L'ambition à terme, c'est aussi de faire du miel ?
Oui, l'ambition à terme, c'est aussi de faire du miel, parce qu'on va essayer de mettre en place ce qu'ils ont dû faire, mais c'est pas attesté par les textes, des réhausseurs pour avoir accès au-dessus de la ruche, parce que les abeilles construisent en hauteur, et donc de pas trop les embêter quand on récoltera le miel.
L'introduction des abeilles dans vos ruchers antiques est prévue pour le mois d'avril. Et l'enjeu, je le disais, c'est aussi la biodiversité, la préservation de l'abeille noire, Elvire.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. On a une petite abeille noire locale. Hein. Et donc, cette abeille noire locale, on a la chance de l'avoir sur place, d'ailleurs, dans un petit essaim qui dure depuis une trentaine d'années, dans un trou de mur du château. Et donc, l'intérêt, c'est de la remettre dans ses ruches, de voir comment elle se comporte, et donc de permettre d'avoir chez les particuliers, chez les autres apiculteurs, cette pratique de cette petite abeille noire qui est plus rustique, qui est moins fragile, voilà, mais qui est peut-être un petit peu plus moins docile, on va dire.
L'ambition de tout ça, c'est bien sûr d'ouvrir toutes ces connaissances au grand public, avec notamment des visites guidées. Et vous travaillez aussi sur un jardin antique à Saint-Romain-de-Jalionnat. On y cultivait des légumes.
Oui, alors on y cultivait des légumes, on y cultivait aussi des condimentaires, des aromates et puis un peu de céréales. Donc c'est un jardin un petit peu multiple. Là encore, on a des textes antiques qui nous donnent des conseils sur la façon de planter, sur la façon d'associer les plantes, sur les types de fumier, etc. C'est quelque chose qui n'a pas été trop mis en place actuellement en France, hein, ces questionnements en pratique expérimentale. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On essaye de suivre les conseils des agronomes latins et de les appliquer dans notre jardin.
Votre association a-t-elle besoin de renfort, Elvire ?
Ah oui, bien sûr, comme toutes les associations, évidemment, des adhérents et des fonds, mais surtout, donc on met en place une formation en apiculture. On fait un petit appel local sur la formation en apiculture. On aurait besoin de stagiaires. Hein. On a besoin aussi de forgerons, de vanniers, de gens qui travaillent sur la vigne, sur les tailles d'arbres. Enfin, vraiment, c'est très, très varié comme besoin.
Eh bien, l'appel est lancé. L'association s'appelle Archéo SRJ. Elle est à Saint-Romain-de-Jalionnat, en Isère. Merci beaucoup, Elvire Royer.
Merci beaucoup, Dorothée.
Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.